Sait-on que le midi de la France compte plus de dolmens que la Bretagne? Sait-on que tous les contreforts méridionaux du Massif central, jusqu'aux bordures méditerranéennes, sont littéralement truffés des témoignages des civilisations de la France d'il y a 5000 ans? Il est certain que les dolmens du Midi sont un peu plus récents que ceux de Bretagne et du monde atlantique. Mais qui les a construits dans ces garrigues parfumées et désertes? Il est aujourd'hui possible de le savoir. Les nombreux monuments de pierre ont pu traverser les siècles sans trop d'encombre, car les terres éloignées et les garrigues n'ont jamais été mises en culture de façon extensive. En Languedoc, dans la seule région des collines du nord de Montpellier, se trouvent les vestiges de plus de 200 villages de grandes cabanes de pierre sèche, contemporains de la construction des dolmens. Nulle part ailleurs en France, on n'avait pu retrouver associés les habitations des vivants et les demeures des morts du troisième millénaire avant notre ère. Dans ces villages regroupant, comme celui-ci à Cambousse, une trentaine de grandes maisons allongées, vivaient des éleveurs de moutons pratiquant aussi la culture des céréales. Ces maisons de pierre sèche aux murs épais sont presque toujours construites sur le même plan. Il ne semble pas qu'il y ait eu de chef ou de personnage particulièrement favorisé. Aucune distinction sociale n'était alors fondée sur la possession des biens ou sur la richesse, qui de toute façon ne devait pas être bien grande. Un autre site exceptionnel, de la même époque, a été découvert non loin de là il y a quelques années. Le Lébousse, le château du Lébousse au pied du pic Saint-Loup, est un grand trapèze de 70 mètres sur 50 environ, délimité par une grande enceinte. Là encore, les bergers s'étaient installés à l'intérieur de la muraille, dans des maisons de pierre sèche. D'hélicoptère, on distingue bien l'enceinte et, dans les angles, des tours, de grosses tours rondes qui avaient peut-être un rôle défensif. Un autre ensemble du même genre vient d'être dégagé récemment à quelques kilomètres de là. Là encore, des tours rondes dans les angles, mais aussi une grande enceinte de pierre dont il reste, à vrai dire, bien peu de choses. Ces premiers villages du Midi, qui furent souvent occupés pendant près d'un demi-millénaire, sont l'œuvre de petits groupes d'agriculteurs, organisant leur vie de façon collective pour gérer leurs troupeaux, cultiver les céréales ou se défendre contre d'éventuels agresseurs. Ce site de Boussargues est placé en effet sur un plateau propice à l'élevage. Et dans les dépressions qui entourent les plateaux se trouvent les terres tendres qui pouvaient être cultivées. Il semble qu'il y ait eu une véritable réussite des techniques agricoles au cours de ces périodes, ce qui a entraîné un fort accroissement de la population dont tous ces sites sont les témoins. Et le rendement des céréales n'était sans doute pas inférieur à celui du Moyen Âge. On se met un quintal pour en récolter trois. Les rendements actuels sont de 1 pour 15 et quelquefois 1 pour 20. Restait le problème de l'eau. Les dépressions naturelles tapissées d'argile conservaient l'eau des orages et permettaient d'abreuver les troupeaux. Pour l'eau potable destinée aux hommes, de grands récipients en céramique étaient placés sous les égouttoirs des grottes ou des avennes, et les archéologues les retrouvent souvent pris dans les concrétions qui les ont protégés. Ces grandes jarres pouvaient aussi servir de silo pour les grains ou à préparer des bouillies de viande à base de céréales. La tradition de la poterie, utilisée pour 1000 usages, était florissante. Quant à ce magnifique dolmen du Lamalou, il nous montre bien ce qu'étaient à l'origine ces monuments, lorsqu'ils étaient recouverts par un remblai de pierres sèches. Dans les chambres des très nombreux dolmens de l'Hérault, ont été retrouvés des poteries, des silex, des colliers, tous les objets que les morts emportaient avec eux. Ces pasteurs des garrigues taillaient dans le très beau silex de la région leurs magnifiques couteaux, mais aussi des grattoirs pour préparer les pots, des pointes de javelot pour la chasse. Et ils n'hésitaient pas à creuser de véritables puits de mine, s'enfonçant profondément sous terre pour aller chercher des silex de bonne qualité. Voici aussi les premiers objets de métal de notre préhistoire méridionale. Ce sont des perles de cuivre, de petits poignards ou des aiguilles, quelquefois des haches. Le cuivre était encore très rare à la fin du troisième millénaire, et ces objets étaient sûrement précieux et recherchés. On pourrait comprendre que la vie passée de ces garrigues, liées aux découvertes archéologiques, aient été longtemps mal connues. Mais il est étonnant que les statues menhirs, souvent encore en place, dans la nature, et si peu marqué notre héritage culturel. Ce sont nos premières grandes sculptures. Leur caractère sacré est évident. Tête de chouette, déesse des morts, déesse muette, le souvenir de cette divinité semble à tout jamais perdu. Qui est ce personnage divin à la tête schématisée, dont la bouche n'est jamais représentée? Est-il homme, avec son objet en sautoir, une sorte de curieux poignard? Est-il femme, avec ses colliers et ses seins? Nul ne sait plus le dire aujourd'hui. Mais ces statues menhirs, très nombreuses dans le Midi, évoque bien la silhouette massive de quelques bergers préhistoriques, encapuchonnés dans sa bure, veillant sur un mystérieux troupeau. Dans la vallée de la Durance, chez d'autres populations voisines de la même époque, on retrouve le même personnage, sous des aspects un peu différents. Toujours pas de bouche, mais le regard est bien celui d'un dieu de la préhistoire. Encore à la même époque, plus près des côtes méditerranéennes, dans la région d'Arles, les dolmens sont remplacés par des hypogées. Ce sont de grandes chambres à section trapézoïdale, soigneusement taillées dans le roc calcaire, orientées au soleil couchant des équinoxes, comme tous les dolmens méridionaux. Ainsi, les bordures méditerranéennes de la France du troisième millénaire nous apparaissent-elles peuplées par des petites communautés égalitaires, vivant avec les mêmes préoccupations économiques et spirituelles. Au même moment, fleurit sur l'île de Malte une civilisation étonnante. Bien entendu, chaque société, chaque terroir avait son originalité, mais l'ambiance générale était la même. C'est sans doute le fait de la mer. Déjà, au 6e et au 5e millénaire avant notre ère, des navigateurs préhistoriques s'étaient lancés sur la Méditerranée, abordant pour la première fois dans les grandes îles, la Sardaigne, la Corse, les Baléares. Et à l'époque qui nous intéresse, les trafics maritimes étaient certainement une réalité quotidienne. Malte occupe une position clé entre la Sicile et la Tunisie, entre la Méditerranée de l'Est et la Méditerranée de l'Ouest. Il y a 5000 ans, ce fut un centre architectural exceptionnel qui resta longtemps méconnu, peut-être à cause du mystère qui entourait ces monuments. Malte a d'ailleurs conservé certains modes de vie hérités directement de la préhistoire. Sur ces terres, pauvres et caillouteuses, les bergers utilisent pour leurs chèvres les parcours et les abris de toujours. Et les salines taillées dans les rochers par les hommes préhistoriques sont quelquefois encore utilisées pour recueillir le sel de la mer. Quant aux extraordinaires traces qui parsèment l'île de Malte, elles ont déjà fait couler beaucoup d'encre sans que leur énigme ne soit vraiment élucidée. Ce sont des ornières parallèles, creusé dans le calcaire assez profondément et par l'action de l'homme sans aucun doute. Une date est archéologiquement certaine. Ces traces sont plus anciennes que le premier millénaire avant notre ère. L'hypothèse la plus récente y voit la marque du passage des travois, sorte d'attelage primitif fait de deux longues perches de bois traînées sur le sol, semblable à ceux qu'utilisaient jadis les Indiens d'Amérique du Nord pour tirer leurs charges. Étrange île en vérité, où se trouvent les temples mégalithiques, c'est-à-dire faits de grosses pierres, les plus anciens monuments de l'architecture méditerranéenne. Et ces temples, avec leurs particularités remarquables, se rattachent bien à cette ambiance générale du troisième millénaire que Jean Courtin, spécialiste français du néolithique, connaît bien. Pour lui, c'est le développement de l'économie agro-pastorale, c'est l'extension des échanges maritimes, notamment avec la Sicile et l'archipel des Liparis, qui ont favorisé l'apparition d'une organisation sociale complexe dont les temples sont le témoignage. Ces temples maltais ont pu être datés précisément par la méthode du carbone 14. Celui de l'île de Gozo, l'un des plus spectaculaires, l'un des plus anciens aussi, remonte aux environs de 2800 avant notre ère. Gantija, la tour des géants, semble en effet être l'œuvre de cyclopes légendaires. Ses murs s'élèvent encore à près de 8 mètres de haut. À l'intérieur, ils étaient enduits de plâtre et peints en rouge. Les toitures ont disparu, elles se sont effondrées, et comme il n'y avait pas d'ouverture latérale, les grandes salles devaient être sombres et mystérieuses. Et les techniques de construction de ces monuments impressionnants sont une énigme fascinante. Il faut laisser aux superproductions cinématographiques les techniques où le carton-pâte résout bien des problèmes et se contenter des restes tangibles laissés par les hommes préhistoriques. En l'occurrence, ce sont de gros boulets de pierre qui servaient, pense-t-on, à rouler les blocs depuis les carrières pour les amener à pied d'œuvre. Et la mise en place de ces blocs a pu être réalisée par des échafaudages de bois. Ici, à Gantija, sur cette maquette, le plan en forme de trèfle, caractéristique des temples maltais, nous apparaît clairement. Le temple d'Agarkim est un autre monument exceptionnel. Il est lui aussi bâti sur un plan tréflé, dont chaque feuille aurait eu d'énormes excroissances de pierre. Construit dans le calcaire local, il a été attaqué par les vents de la mer, chargé de sel. Ses vestiges déchiquetés sont imposants. Il y a là des dalles de plusieurs tonnes et un monolithe qui mesure plus de 6 mètres de long. Ce qui n'est pas moins étonnant, c'est que ces temples, les plus anciens temples du monde, ont été réalisés par des populations demeurées à un stade technologique extrêmement bas, puisque les constructeurs ignoraient l'usage du métal et ne disposaient que d'un outillage de pierre rudimentaire. Ce sont des maillets ou des marteaux qui servaient à dégrossir, à lisser ou à creuser. Avec ces seuls outils, on imagine que la réalisation de ces temples devait mobiliser une main-d'œuvre importante. L'organisation sociale à Malte était en effet très différente de celle des petites communautés égalitaires de l'ensemble du néolithique européen. Dans cette île aux ressources matérielles et humaines limitées, seule la présence de chefs investis d'un pouvoir important peut expliquer la construction de ces monuments. Et dans les temples, ces chefs, civils autant que religieux, proposaient aux dieux les produits de la terre et de la mer sur ces magnifiques autels de pierre. Exubérant du temple de Tarxien, avec toutes ses salles, ses chambres, ses magasins, nous montre bien l'importance du rôle de ces chefs religieux. Les animaux de l'île, chèvres, moutons, porcs, étaient offerts en sacrifice à la grande déesse de la fécondité. C'est la déesse mère de la Méditerranée de toujours, protectrice des récoltes, de la fertilité des champs et des femmes. Son tronc et sa tête, malheureusement, ont disparu. En face de la déesse, un autel où ont été retrouvés des ossements de chèvres offertes en sacrifice et le couteau de silex qui l'a accompli. Cette grande dalle pouvait servir à recueillir le sang des victimes. Les rites maltais n'étaient pas, on le voit, dépourvus d'une certaine violence. Mais voici le temple de Najdra, dans un site exceptionnel, dominant la mer, face au soleil levant. L'élégance de ces constructions est remarquable. Il y a ici un complexe de 3 bâtiments, agencés autour d'une grande esplanade. Des études récentes, basées sur les surfaces de terres cultivables disponibles il y a 5000 ans, ont permis d'estimer la population des îles Maltaises à environ 12 000 personnes. Elle en compte plus de 300 000 aujourd'hui. Or, la répartition géographique des temples indique l'existence de 6 territoires principaux, attribués à des chefferies, à des clans. Chaque clan groupait donc 2 000 personnes dirigées par un ou plusieurs chefs prêtres. Et ce sont ces 2 000 personnes qui étaient responsables de la construction et du fonctionnement de ces temples. À Najdra, les oracles avaient une grande importance. Les consultants, introduits dans les salles obscures, pouvaient recevoir des instructions ou des informations des dieux par l'intermédiaire des prêtres cachés derrière le mur. À moins qu'il ne se soit agi d'ordre ou peut-être de talisman, de recettes de guérison. À moins que les têtes des déesses, que l'on pouvait animer, n'aient donné les réponses sacrées en opinant ou en refusant. C'étaient bien sûr les prêtres qui, dans ces temples obscurs, pouvaient tirer les ficelles en toute quiétude. Ici, on voit encore les passages dérobés par où circulaient les prêtres. Quoi qu'il en soit, nous voyons dans ce magnifique temple de Najdra que le rôle des chefs prêtres était prépondérant dans une société maltaise déjà organisée, selon des modèles que l'on retrouvera dans bien d'autres civilisations. Al-Safliyeni est sans aucun doute le plus extraordinaire monument de l'archipel maltais. C'est un hypogée creusé dans le sous-sol, entre 5 et 10 mètres de profondeur. L'architecture souterraine est absolument identique à celle des temples de plein air. Elle reproduit les piliers, les colonnes, les portes. Mais ici, tout a été taillé dans la masse du calcaire à coups de pic faits dans des bois de serre. Une vingtaine de grandes chambres communiquent par des escaliers. Dans une grande salle décorée, la chambre de l'oracle, avaient lieu les rites funéraires, car dans Al-Safliyeni se trouvaient au moment de la découverte en 1902 les restes de près de 7000 Maltais d'il y a 5000 ans. Avec leurs amulettes, leurs offrandes, leurs souvenirs, leurs ex-voto, nous pouvons approcher les préoccupations, les soucis, les joies du peuple préhistorique de Malte. C'est là aussi qu'a été retrouvée la célèbre Dame couchée, magnifique chef-d'œuvre en terre cuite. Est-elle adorante, prêtresse ou déesse? Son image est voisine de celle de la divinité des temples, mais ici elle semble plus liée à la mort qu'à l'image triomphante de la fécondité. La grande déesse de Malte, protectrice des récoltes et des morts, ouvrait-elle la voie à Isis et à d'autres mères divines de la Méditerranée des temps historiques? Toute cette société originale et pacifique de Malte sera anéantie brutalement quand arriveront par la mer, à la fin du troisième millénaire, des populations venues de la mer Égée, des Cyclades. Les marins qui sillonnent maintenant la Méditerranée possèdent des armes et des outils redoutables. Avec eux, une nouvelle histoire commence, celle des civilisations connaissant le métal.